Alors aujourd'hui, pour le 24 avril, le Darshan de mer, je vais vous lire le yoga et la santé. Alors je vais commencer par une prière que mer fait au début, signée de mer. Alors je vais vous lire l'introduction. Courage, écoutez la leçon que chaque matin apporte à la terre dans ses premiers rayons. Le soleil levant. C'est une leçon d'espérance, un message de consolation. Vous qui pleurez, vous qui souffrez, vous qui tremblez, n'osant prévoir le terme de vos maux, l'issue de vos douleurs, regardez. Il n'est pas de nuit sans aurore, et l'aube se prépare quand l'ombre s'épaissit. Il n'est pas de brouillard que le soleil n'efface, pas de nu qu'il ne dort, pas de pleurs qu'il ne sèche un jour, pas d'orage après lequel ne rayonne son arc triomphal. Il n'est de neige qui ne fonde, ni l'hiver qu'il ne change en printemps radieux. Si l'épreuve ou la faute t'ont jeté bas, si tu as sombré dans quelques bas-fonds de souffrance, ne t'afflige point, car c'est là que pourront t'atteindre la divine tendresse et la suprême bénédiction. Parce que tu es passé au creuset des douleurs purificatrices, à toi les ascensions glorieuses. Voilà, mère. Alors, le chapitre 1 dedans, c'est la grâce divine. J'aime beaucoup la grâce divine. Et le titre de ce que mère explique, on peut changer son destin. Par une discipline yogique, on peut non seulement prévoir le destin, mais le modifier, le changer presque totalement. Tout d'abord, le yoga nous enseigne que nous ne sommes pas un être unique, une entité simple, qui nécessairement n'aurait qu'un destin unique, simple et logique. Mais on est obligé de constater que le destin de la plupart des hommes est complexe, d'une complexité qui va parfois jusqu'à l'incohérence. N'est-ce point cette complexité même qui crée l'impression de l'inattendu, l'indéterminé et par suite d'imprévisible. Pour résoudre le problème, il faut d'abord savoir que tout être vivant, et plus spécialement l'être humain, est fait de la combinaison de plusieurs entités qui se groupent, s'interpénètrent parfois, s'organisent et se complètent, parfois s'opposent et se contredisent. Chacun de ces êtres ou états d'être appartient à son monde propre et porte en lui-même son propre destin, son propre déterminisme. Et c'est la combinaison, parfois hétéroclite, de tous ces déterminismes qui produit le destin de l'individu. Mais comme l'organisation et la relation de toutes ces entités peuvent être changées par une discipline personnelle et par l'effort de la volonté, comme ces divers déterminismes agissent l'un sur l'autre de façon différente, suivant la concentration de la conscience, leur combinaison est presque toujours variable et par suite imprévisible. Par exemple, le destin physique ou matériel d'un être provient de ses antécédents paternels et maternels, des conditions et des circonstances physiques dans lesquelles il est né. On devrait pouvoir prévoir quels seront des événements de sa vie physique, son état de santé, et l'approximative durée de son corps. Alors, entre en jeu la formation de son être vital, l'être des désirs, des passions, mais aussi de l'énergie impulsive et de la volonté active qui apporte avec lui son propre destin. Ce destin influe sur le destin physique et peut complètement le changer et souvent même l'altérer. Par exemple, un homme qui est né avec un très bon équilibre physique et devrait vivre en très bonne santé. Si son vital le pousse à des excès de tout genre, à de mauvaises habitudes, même à des vices, peut ainsi détruire en partie son beau destin physique et perdre l'harmonie de la santé et de la force qu'il aurait dû sans cette malencontreuse intervention. Ceci n'est qu'un exemple, mais le problème est beaucoup plus complexe puisqu'au destin physique et vital viennent s'ajouter le destin mental, le destin psychique et bien d'autres encore. En fait, plus un être est haut dans l'échelle humaine, plus son être est complexe, plus ses destins sont multiples. Et par suite, plus sa destinée semble imprévisible. Ce n'est cependant qu'une apparence, et la connaissance de ces divers états d'être et de modes intérieurs qui y correspondent donne en même temps la capacité de discerner les destins divers, leur interprétation et leur action combinée ou dominante. Les destins supérieurs sont de toute évidence les plus proches de la vérité centrale de l'univers. Et s'il leur est permis d'intervenir, leur action est nécessairement bienfaisante. L'art de vivre consisterait donc à se maintenir dans son état de conscience la meilleure et dominer les autres dans la vie et dans l'action. On peut dire sans crainte de se tromper, soyez toujours au sommet de votre conscience et c'est toujours le meilleur qui vous adviendra. Mais cela est au maximum n'est pas facile à atteindre. Au cas où cette condition idéale ne peut être réalisée, l'individu peut tout au moins, lorsqu'il est confronté par un danger ou une situation critique, faire appel à son destin, le meilleur par l'aspiration, la prière, l'abandon confiant à la volonté divine. Alors, dans la mesure de la sincérité de l'appel, ce destin supérieur intervient de façon favorable dans le destin ordinaire de l'être et change le cours des événements en ce qui le concerne personnellement. Ce sont les événements de ce genre qui apparaissent à la conscience extérieure comme des miracles, des interventions divines. Février 1950. On ne veut pas de la grâce divine. Alors c'est toujours le titre, la grâce divine, mais on ne veut pas de la grâce divine. Tout le matérialisme et le positivisme dans le monde ont été bâtis justement parce que les gens ne veulent pas du tout qu'il soit question de grâce divine. S'ils guérissent, ils veulent pouvoir dire « c'est moi qui me suis guéri ». S'ils font un progrès, ils veulent pouvoir penser « c'est moi qui fais le progrès ». S'ils organisent quelque chose, ils veulent pouvoir proclamer « c'est moi qui organise ». Et beaucoup, beaucoup de ceux qui essayent de faire autrement, s'ils regardent au-dedans d'eux-mêmes, savent que ce n'est pas eux du tout qui ont fait, mais la force divine. le 5 avril 51. Douleur et souffrance. Éliminer la douleur. Souffrance physique. Il y a une chose certaine, n'est-ce pas? Je pense que ça a été dans le système, dans la nature, que ça a été inventé comme un indicateur. Parce que, par exemple, si le corps se désorganisait d'une façon quelconque et que cela ne causait aucune souffrance, on ne chercherait jamais à arrêter la désorganisation. On ne pense à guérir une maladie que parce qu'on souffre. Si cela ne vous causait aucun dérangement, on ne chercherait jamais à s'en guérir. Alors, dans l'économie de la nature, je pense que le premier but de la souffrance physique, c'est de vous mettre en garde. Malheureusement, il y a le vital qui s'immisce dans l'affaire, qui prend un plaisir très pervers à augmenter, à tourner, à aiguiser la souffrance. Alors ça déforme tout le système, parce qu'au lieu d'être un indicateur, quelquefois, cela devient une occasion de jouir de sa maladie, de se rendre intéressant, et puis d'avoir l'occasion de se prendre en pitié. Toutes sortes de choses qui proviennent toutes du vital et qui sont toutes plus détestables les unes que les autres. Mais originellement, je pense que c'était ça. Attention, n'est-ce pas? C'est comme un signal de danger. Attention. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Seulement, quand on n'est pas très douillé, qu'on a un petit peu d'endurance et qu'on décide qu'au-dedans de soi, on ne fait pas trop attention, il est assez remarquable que la douleur diminue. Et il y a un nombre de maladies et de déséquilibres physiques qui peuvent se rétablir simplement en supprimant les faits, c'est-à-dire en arrêtant la souffrance. Généralement, elle revient parce que la cause est encore là. Si on trouve la cause de la maladie et que l'on a là, on agisse directement sur ses causes, alors on peut guérir radicalement. Mais si on n'en est pas capable de le faire, on peut se servir de cette influence, de ce contrôle sur la douleur pour en supprimer ou éliminer la douleur ou la maîtriser en soi, avoir un effet sur la maladie. Alors, c'est un effet, pour ainsi dire, du dehors au dedans, tandis que l'autre, c'est un effet du dedans au dehors, qui est beaucoup plus durable et beaucoup plus complet. Mais l'autre aussi a de l'effet. Par exemple, n'est-ce pas, il y a des gens qui souffrent de façon intolérable de maux de dents. Ça dépend surtout. Il y a des gens qui sont plus ou moins ce qu'on appelle douillés, c'est-à-dire incapables de résister à une douleur, de la supporter, qui immédiatement dit « je ne peux pas, c'est insupportable, je ne peux pas supporter davantage ». À ça, ça ne change rien à la situation. Ça ne fait pas cesser leur souffrance, parce que ce n'est pas de lui dire qu'on n'en veut pas qui fait qu'elle s'en va. Mais si on peut, n'est-ce pas, faire deux choses, ou amener en soi pour toute souffrance nerveuse, par exemple, amener en soi une sorte d'immobilité aussi totale que possible à l'endroit que l'on souffre, où l'on souffre. Ça fait l'effet d'un anesthésiant. Si on arrive à apporter une immobilité intérieure, immobilité de la vibration intérieure à l'endroit où l'on souffre, cela fait exactement le même effet que l'anesthésiant. Cela coupe le contact entre l'endroit qui souffre et le cerveau. Et une fois que vous avez coupé le contact, vous pouvez garder suffisamment ça longtemps, la douleur disparaîtra. Il faut avoir l'habitude de cela. Mais on a l'occasion, on a tout le temps l'occasion de ça. On se coupe, on se cogne, n'est-ce pas ? On se fait toujours des petits bobos quelque part, surtout quand on fait de l'athlétisme, de la gymnastique ou tout ça. Eh bien ça, ce sont des occasions qui nous ont été données. Au lieu d'être là, ça c'est important, à observer la douleur, à tâcher de l'analyser, à se concentrer dessus, ce qui fait que ça augmente de plus en plus. Il y a des gens qui pensent à autre chose. Ce n'est pas durable. Ils pensent à autre chose. Et puis tout d'un coup, ils sont tirés de nouveau vers l'endroit qui leur fait mal. Et si on peut faire ça, n'est-ce pas ? Puisque la douleur est là, cela prouve que vous êtes en contact avec le nerf qui transmet la douleur. Autrement, vous ne le sentiriez pas. Eh bien, une fois que vous savez que vous êtes en contact, vous accumulez là autant d'immobilité que vous pouvez en accumuler pour arrêter la vibration de la douleur. Vous vous apercevez, n'est-ce pas, que ça fait l'effet d'un membre qui s'endort quand vous êtes dans une mauvaise position et que tout d'un coup, vous savez cela, n'est-ce pas ? Et puis, quand ça cesse, ça recommence à vibrer d'une façon terrible. Eh bien, vous faites volontairement cette espèce de concentration d'immobilité dans le nerf qui souffre. Au point qu'il souffre, vous amenez une immobilité aussi totale que vous pouvez. Eh bien, vous vous apercevrez que cela agit. Je vous dis, comme un anesthésiant, cela s'endort. Et alors, si vous pouvez ajouter à cela une sorte de paix intérieure, une confiance que la douleur va s'en aller, eh bien, je vous réponds, elle s'en ira. Alors, j'arrive à la fin. De toutes les choses, celle qui est considérée comme la plus difficile au point de vue yogique, c'est le mal de dents parce que c'est près, très près du cerveau. Eh bien, je sais que cela peut être fait au point vraiment de ne pas sentir la douleur du tout. Cela ne guérit pas la dent malade, mais il y a des cas où on peut arriver à tuer le nerf qui souffre. Généralement, une dent, c'est le nerf qui est atteint par la carie, par la maladie, et qui commence à protester avec toute sa capacité de protester. Alors, si vous arrivez à établir cette immobilité-là, vous l'empêcherez de vibrer et l'empêcherez de protester. Et ce qui est remarquable, c'est que si vous le faites d'une façon assez constante, avec beaucoup de persévérance, le nerf malade mourra et vous ne souffrirez plus du tout parce que c'est lui qui souffrait. Et quand il est mort, il ne souffre plus. Essayez. J'espère que vous n'avez pas mal aux dents. Le 17 novembre 1954.